Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah, je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 30 janvier, il est 8h30 au programme de cette matinale. Nous sommes en direct avec Guillaume Martin, bonjour.
Bonjour.
Tu es syndiqué CGT pour l'Union départementale, merci d'être avec nous. Et Manu Poux, bonjour.
Salut.
Et toi, tu es prof, hein, prof de maths, et tu es syndiqué pour Sud Éducation. Grosse période de mobilisation en ce moment, hein, je crois que personne n'est passé à côté. Mardi matin, il y a la manif à partir de 10h30, on va en parler avec vous de pourquoi il faut se mobiliser, de quoi c'est important d'avoir comme ça des syndicats, et pourquoi il faut syndiquer aussi. Les chiffres ne sont pas bons pour les syndicats en France, hein. On va en parler avec vous. En deuxième partie d'émission, ce sera un petit micro-trottoir fait par notre stagiaire la semaine dernière sur les écrans. Il y aura de la musique, programmation 100% féminine aujourd'hui, parce que ça fait du bien. Et on y va, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. C'est lundi pour tout le monde. Et puisqu'on parle de combats sociaux ce matin, allons-y pour une nouvelle qui va vous surprendre, ou pas d'ailleurs. On s'y attendait un peu, c'est officiel depuis la semaine dernière, il y a des travailleurs sans papier sur les chantiers des JO de Paris. Pourtant, après les controverses qui ont marqué la Coupe du Monde de football au Qatar, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 rêvait d'un rendez-vous socialement exemplaire. En juin 2018, il s'engageait dans une charte à, je cite, « faire respecter les normes internationales du travail et notamment le travail décent ». Cet engagement est vite tombé à l'eau. Depuis le début de l'année 2022, des cas d'exploitation de travailleurs sans papiers se multiplient. Quand je vous disais que ça n'allait pas vous étonner. Alors, sachez déjà, si vous ne le savez pas encore, que ce n'est pas nouveau. Des travailleurs sans papiers en France et depuis des années, ça existe et ça fait l'affaire de beaucoup d'employeurs pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Le gros problème reste leurs conditions de travail. Aucun droit, des salaires de misère, une insécurité maximale. Y aurait-il une solution pour que ce genre de débat n'existe plus? Bah ouais, il y en a bien une, la régularisation de ces travailleurs, travailleuses, tous et toutes. En novembre dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait en grande pompe une grande loi immigration qui devrait commencer à être discutée dans les semaines à venir au Parlement. Au-delà de son aberration, puisqu'elle vise à augmenter le nombre d'obligations de quitter le territoire français assez considérablement pour les trois prochaines années, on l'a bien vu en Lozère, n'est-ce pas ? Il y a, je cite, « la volonté de créer des titres de séjour pour les métiers en tension ». C'est ce qui s'appelle prendre le taureau par les cornes. Bon, je me pose plein de questions. 1. Qu'est-ce qu'un métier en tension ? 2. Sont-ils en tension sur les chantiers de Paris 2024 ? 3. Est-ce qu'une fois que ces métiers en tension n'auront plus besoin de ces travailleurs-travailleuses, auront-ils le droit, les employeurs, de s'en débarrasser, comme on se débarrasse d'une vieille paire de chaussettes trouées ? 4. Quid de leurs droits ? Quid de leur humanité ? Quid de leur sécurité ? Est-ce que vous le sentez venir, le coup de Trafalgar ? Le ministre Darmanin avait d'ailleurs indiqué dans une émission le 6 novembre dernier proposée par Europe 1, CNews et Les Échos, c'est vous dire le niveau, je le cite, « nous ne proposons pas de régularisation massive, c'est tout le contraire, sachant que ces titres de séjour seront au maximum pour un an ». Cela voudrait dire, et c'est la première et la dernière question que je me pose, sans doute la plus grave, si pour bosser et surtout boucher les trous, les travailleurs sans papier doivent se déclarer pour une situation plus que précaire, est-ce qu'ils pourront être cueillis à la sortie de leur dernier jour de travail par des flics munis d'une OQTF ? Cela voudrait dire alors que nous serions dans un fichage illégal et condamnable. En écrivant cet édito, je m'énervais tout seul sur mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis mis à rêvasser. Et j'ai entendu la voix d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale. Pour que tous les travailleurs travailleuses sans papier soient de suite régularisées de manière définitive, j'engage la responsabilité du gouvernement et fais valoir l'article 49.3 de notre Constitution. Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie. Peine perdue, c'était un rêve, et avec l'extrême droite aux portes du pouvoir et un pouvoir en place qui se croit tout permis, il y a des chances que ça le reste pour longtemps. À vos marques, prêt, Paris.
Driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance. sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, you're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part.
Extrait d'Aurora, Everything Matters, avec Pomme. De retour en plateau avec Guillaume et Manu, on parle de syndicats et de mobilisation, de celle de demain, de retraite. Peut-être une petite réaction déjà sur l'édito, Guillaume ?
Oui, on n'est pas tellement surpris de ce qui se passe sur les chantiers des Jeux Olympiques, quand on sait que ce type d'organisation, il est livré aux plus grandes multinationales qui n'emploient pas en direct, mais pratiquent le dumping social, c'est-à-dire à travers leurs filiales, la sous-traitance, tirent les prix vers le bas. Donc en tirant les prix vers le bas, ça veut dire que la main-d'œuvre, ils prennent la plus exploitable et la plus corvéable qui soit. Et donc un travailleur sans papier, c'est bien pratique pour eux.
Manu ?
Oui, tout va bien pour le meilleur des mondes. Circuler, il n'y a rien à voir. Souriez, hein, les JO sont là.
Ouais, c'est clair. Alors, commençons par parler de syndicats, de personnes syndiquées. En France, ça représente à peine 10 à 11% des actifs. Alors, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer et est-ce qu'il faudrait des chiffres meilleurs ?
Ouais, alors c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas assez de syndiqués en France. Il y en a beaucoup moins que ce qu'il y en avait il y a quelques décennies de ça. Et d'ailleurs, ça démontre bien que quand on était plus nombreux, on arrivait à engranger des acquis sociaux, enfin ce qu'on appelle même des conquis sociaux, hein, parce que c'est quand on est le plus nombreux que le rapport de force, il est le meilleur. Alors certes, il n'est pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être, mais quand même, je rappellerai que les adhérents aux partis politiques sont encore beaucoup moins nombreux que le nombre d'adhérents aux syndicats. Rien qu'à la CGT, on a beaucoup plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus. Je pense qu'il faut quand même le souligner et faire en sorte qu'on ne soit pas trop assimilé à une institution lambda, quoi. Voilà.
Manu, à ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à se syndiquer ?
Il y a, à mon avis, dans ce pays, il y a quand même un manque de culture politique générale. Et puis, il y a une espèce de syndicat bashing qui a été opéré médiatiquement en disant, les privilégiés de la CGT, c'est pas pour Guillaume, hein, c'est pour tout le monde, hein, espèce de clan qui défendrait ses propres intérêts, alors qu'en fait, c'est des réflexions globales, sociétales, qui sont en jeu. Et regrouper un syndicat, le principe, c'est que ce sont des personnes de la même classe, de la classe ouvrière, qui se regroupent pour être puissantes face à la classe adverse qui est organisée, la bourgeoisie en face. Eux, ils ont le temps, l'argent de se réunir dans des salons bien au chaud, alors que nous, on est dispersés. Et c'est compliqué, avec nos petits moyens de production, de s'organiser pour résister et pour conquérir des droits. Parce qu'effectivement, les droits, ce n'est pas des acquis. Ça bouge tout le temps. Par exemple, l'exemple des droits des femmes en ce moment, partout dans le monde, l'avortement, c'est menacé. Ce n'est pas un acquis. Il faut tout le temps être vigilant.
Si ça peut donner des idées à des personnes de se syndiquer, quel a été le début de votre engagement à vous, Guillaume ?
Oh, ça remonte à quelques années. ça remonte à 1995, où déjà on était attaqué par rapport aux retraites, hein, le fameux plan Juppé. Et Juppé avait dit cette phrase merveilleuse à l'époque que les fonctionnaires dont je faisais partie faisaient de la mauvaise graisse. Donc ça a été une sorte de déclic, parce qu'il y avait une condescendance puante de sa part. Une mauvaise graisse avec à peine plus que le SMIC à la poste, dans des conditions de travail très difficile. C'est ce qui a fait le déclic et qui m'a décidé à me syndiquer. Alors j'y réfléchissais déjà depuis quelques temps, parce que moi j'aime beaucoup les discussions avec les collègues, tout ça, et ça a été un moment fondateur.
Manu ?
Moi, c'est mes cours d'histoire sur le collège, au lycée. Je pense que, en fait, quand on lit l'histoire française, quand on lit l'histoire du monde ouvrier, ben, on comprend qu'il est nécessaire justement de réfléchir collectivement, d'œuvrer collectivement pour aller vers un monde meilleur. Et du coup, la structure syndicale est essentielle dans cette démarche-là.
Notons donc qu'un prof de maths peut aimer l'histoire.
C'est largement pas incompatible.
Alors, on va évidemment parler de la manif de mardi, mais déjà, Guillaume, je voudrais qu'on dise un mot, puisque vendredi, il y avait une rencontre avec Guérini, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction publique, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé. Moi, personnellement, je n'attendais pas grand-chose de cette rencontre. Le fait qu'il nous ait reçus en personne... est quand même assez... Enfin, ça interpelle un petit peu, ça prouve peut-être qu'ils sont pas si tranquilles que ça en face. Après, ça reste quand même une opération de communication de sa part. Il a cité quelques points où la loi pourrait évoluer. Il a même dit qu'elle ne serait plus la même une fois qu'elle serait ressortie du Parlement. Mais sur le fond, il n'y a bien sûr pas du tout d'inflexion, notamment par rapport au report de l'âge de retraite. On a plutôt... moi, j'ai le sentiment qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui gère une entreprise que le bien collectif et le bien national. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je trouve que c'est un peu agaçant, pour pas dire plus.
Gros succès pour la manif il y a quelques semaines, quelques jours, puisque c'était il y a à peine 10 jours. C'est rare de voir les syndicats unis comme ça, Manu ?
Oui et non, hein. Je crois que sur les gros moments importants, tous les syndicats ont été là. Ce qui se passe, c'est qu'on a un projet de société qui est mis en débat. Et je crois que les syndicats sont tous unanimes sur le fait que cette société-là, le projet qui est présenté, ben, personne n'en veut à part la classe dirigeante de Renaissance et compagnie, quoi. C'est effectivement les quelques privilégiés qui défendent l'oligarchie financière, etc., et qui se fait au détriment de tous.
En tout cas, c'était pas si fréquent ces dernières années de voir les 8 organisations syndicales ensemble. Il faut remonter quand même, je crois, quelque chose comme de 2010. Ça prouve bien l'urgence de la situation. Hein. Certains de nos camarades d'autres organisations qu'on voit peu reconnaissent vraiment que l'heure est grave. Et ce qu'il y a d'intéressant actuellement, c'est que ces 8 organisations, elles font bloc. Et c'est ce qui est primordial.
Alors, jusqu'ici, tout va bien, vous êtes unis, mais Laurent Berger de la CFDT a déjà annoncé que si la réforme était votée, il s'y plierait et arrêterait de se mobiliser. Et vous ? Pour la CGT, Guillaume ?
Nous, on n'est pas dans l'optique de se dire qu'on va perdre. Moi, je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, parce que si on a ça dans la tête, je pense que le combat, on ne le mènera pas à la hauteur de ce qu'il faut le mener. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à mobiliser, à la fois dans la rue, mais aussi dans les boîtes, le soir, les week-ends. Enfin, il faut qu'il y ait diverses formes d'action. Et je pense que ce qui commence à se passer, notamment à la SNCF, mais aussi avec nos camarades de la chimie, dans les
raffineries,
ça peut enclencher quelque chose d'important.
Chez Sud, vous avez la même position, je suppose. Aussi.
Nous, on est un petit peu plus figé, c'est-à-dire que nous, on demande le retour aux 37,5 ans de cotisation avec un départ à la retraite à 60 ans, et je crois que nos positions sont claires. Et Laurent Berger, les positions qu'il a, ça n'engage que lui, elle n'engage même pas sa base. Il n'est pas clair que les militants de la CFDT ne soient pas plus radicaux que M. Berger. Et la lutte, elle va se construire non pas à Paris dans les bureaux, mais sur le terrain, à la base, dans les assemblées générales. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe, parce que par exemple, le mouvement de grève de la SNCF de Noël, il s'est construit au-delà même des syndicats. Donc il a débordé et ils ont gagné. Donc on peut voir que quand ça déborde, en face ça lâche. Hein. Donc tout est à faire.
L'argument principal utilisé par le gouvernement, c'est que si cette réforme est juste, c'est qu'il faut, qu'elle est nécessaire pour sauver notre système par répartition. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Oui, c'est du dogmatisme et c'est purement idéologique. C'est de la sémantique même, parce que le système, il n'est pas du tout en danger. C'est même le Conseil d'orientation des retraites qui le dit. Je veux dire que même dans leur logique à eux comptable, ce n'est même pas... pas vérifié. Non, moi, je, comme l'a dit Manu, de toute façon, il s'agit d'un choix de société, parce que du pognon, il n'y en a jamais eu autant qu'il y a circulé. Je rappellerai quand même que le système de la sécurité sociale, il a été créé par le Conseil national de la Résistance au sortir de la guerre, à une époque où il n'y avait plus une thune. Ça a été possible à ce moment-là, et là, on est en train de nous dire que ça serait plus possible. Non, mais on nous prend pour des imbéciles.
Manu, je te vois acquiescer.
L'autre jour, je suis allé voir un film sur l'évasion fiscale, animé avec un débat avec Monique Pinson-Charlot. Donc, en France, il y a 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Donc, effectivement, de l'argent, il y en a plus que nécessaire. Et alors, quand on lit l'énoncé de l'avant-propos du projet de loi, effectivement, c'est qu'un problème de financement. Donc, si c'est juste de l'argent, il suffit d'aller le chercher là où il est, l'argent. Et qu'on arrête de venir nous casser les pieds avec... En fait, avec notre vie, quoi. C'est ça, il est où le projet de vie ? Dans le projet de loi, il n'y a rien. La vie des gens, en fait, ils s'en foutent complètement. Et là, c'est ça qui est insupportable. C'est vraiment la théorie du ruissellement. On a l'impression que c'est les riches qui pissent sur les pauvres, quoi.
Rajoutons à ça 86 milliards pour les actionnaires l'année dernière. C'est un record. Il y a de l'argent, quoi.
Oui, il y a de l'argent, et l'argent amène l'argent. Je pense que ces gens-là ne sont jamais rassasiés. Hein. Voilà, mais de l'argent pour quoi faire, on ne sait pas. Enfin, c'est un problème de répartition des richesses. Et là, il y a un fossé qui est en train de se crever. Et je pense que le gouvernement joue à un jeu dangereux, parce que moi, je sens beaucoup de colère monter. On a pu le voir le 19 en Lozère, comme partout en France. On a vu des personnes qu'on était loin d'imaginer un jour descendre dans la rue. Et moi, c'est ce que je retiens un peu de cette journée-là. Je pense que le mouvement, il dépasse largement le cadre syndical. Et je pense qu'il est même en train de le dépasser. Et moi, à la limite, je trouve que c'est plutôt positif. Et il va falloir continuer sur cette lancée dès demain, dans la deuxième grosse journée de mobilisation à Mende.
On a quand même l'impression que l'arrogance du pouvoir macronien est sans limite. Est-ce que, comme les gilets jaunes, hein, en fait, au final, une petite crise et puis on n'en parle plus. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va plier ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui fera enlever cette réforme.
Je pense qu'il y a quand même des divergences qui sont apparues au sein de la majorité, voire même avec la droite, parce que bon, la droite fait clairement alliance avec ce qu'on appelle Renaissance, oui, voilà.
Ouais.
Et il y a des voix discordantes qui sont montées quand même ces derniers jours, donc c'est en train un petit peu de se fracturer, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils sont pas si tranquilles que ça. Bon, c'est pas... leur simple divergence qui nous fera en gagner, mais c'est quand même un signe que, y compris chez eux, y a des choses qui se passent.
Manu, tu as écrit un manifeste que tu m'as envoyé, que j'ai lu, et en fait, commençons par le début, tu es parti de plusieurs constats avant de donner quelques idées. Dans les grandes lignes, c'est quoi les constats que tu as fait ?
Moi, je suis toujours un petit peu dubitatif là depuis sur la tactique syndicale, la tactique de lutte depuis ces 20 dernières années, parce qu'on n'a pas gagné grand chose, il faut quand même le reconnaître. Et le seul vraiment, les quelques reculs qu'il y a eu, notamment c'est ceux dus au mouvement des Gilets jaunes. Et si Guillaume. sur les journées de grève à répétition qui usent tant physiquement que financièrement les petites gens, j'espère qu'on arrivera à construire une alternative de mobilisation, hein. Il ne faut pas rester chez soi, hein. Ça c'est pas possible, parce qu'en face ils vont pas céder si on reste sur le canapé. Des idées pour réinventer le mouvement social, se mobiliser le soir, les week-ends, enfin sur le temps libre, sans que ça coûte nécessairement la journée de salaire, ça peut être réfléchi, ça peut être discuté. Il peut y avoir aussi des mouvements de grève. La grève en soi, en fait, elle est là pour stopper la production bourgeoise. Donc, parce que le bourgeois, il est piqué quand ils gagnent plus de l'argent. Dans l'éducation nationale, par exemple, c'est compliqué de stopper la production. Notre produit fini, il met 15 ans à arriver. Donc même s'il loupe 3 semaines de cours, c'est pas la fin du monde pour lui, et ni pour la société. Donc là, quand on analyse en termes marxistes la grève dans la fonction publique, des fois c'est assez troublant. Et après, réfléchir à d'autres formes d'action, c'est aussi aller un petit peu vers de la radicalité, parce que effectivement, en face, on a des gens déterminés qui sont capables de réfléchir à perdre des millions pour gagner sur le long terme. Le mouvement de grève de la SNCF de 2019 l'a montré. C'est-à-dire que les camarades cheminots, ils ont fait un mois de grève dure. La direction en face, elle a tenu. Et au final, ce qui nous a sauvés, en fait, par rapport aux grèves de 2019, c'est le Covid, quoi. Et s'il n'y avait pas le Covid, qu'est-ce qui serait passé? Le 49-3 avait déjà été dégainé. L'histoire aurait été peut-être tout autre si le petit virus n'avait pas été là.
Guillaume, par rapport à ce que dit Manu, d'autres formes de mobilisation qu'un mardi, par exemple, où ça peut être embêtant?
Mais moi, je pense que tout est complémentaire. Il ne faut pas opposer les luttes les unes aux autres. Moi, je pense quand même que le meilleur moyen d'instaurer un rapport de force, c'est d'arrêter justement l'appareil de production, y compris dans les services publics, parce que c'est ce qui fait vraiment le plus peur au patronat et au gouvernement. Après, je pense que oui, moi je me répète, il ne faut pas opposer tout se complète. Manu faisait référence aux gilets jaunes. Je pense qu'on a encore un peu de mal à analyser ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, ce mouvement-là, je le dénigre pas du tout. Je constate simplement que on a obtenu quelques miettes à travers des primes, et l'octroi de ces primes, il a contribué quand même à affaiblir le système de répartition, de sécurité sociale, parce que ce n'est pas assujetti à cotisation. On est sur vraiment dans du court-termisme complètement, quoi. Donc c'est pas mal, personne va cracher sur ce qui a été donné à ce moment-là, mais on a l'impression que les salariés, les ouvriers, ils subissent, enfin ils reçoivent une obole, quoi. Voilà, et c'est pas ce qu'il faut.
Et la carotte et le bâton.
Oui, un peu.
Il y a eu d'autres combats, hein. On a vu la réforme du chômage qui est passée il y a quelques mois, qui est catastrophique, notamment pour les saisonniers, mais pas que. Pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation à ce moment-là? Ou en tout cas pas aussi énorme?
Il y a quelque chose de tout à fait, je dirais, simple, c'est que c'est les personnes qui sont en premier lieu concernées, elles sont difficiles à organiser collectivement. Et ça, c'est une des principales difficultés. On a au sein de la CGT un comité des travailleurs privés d'emploi qui fonctionne relativement bien dans les grandes villes, mais c'est loin d'être le cas partout. Et la première des difficultés, c'est ça. Après, effectivement, il y a un fond musical médiatique qui consiste à les stigmatiser et en gros qui fait que ceux qui ont un boulot vont pas tellement se battre pour des gens comme ça, quoi. Voilà,
c'est vraiment toi médiatiquement que ça aurait dû se passer différemment et dire que le système de chômage.
Non, mais parce qu'en plus c'est très grave, hein. C'est ce qui s'est passé, enfin quand on le regarde dans le détail, on fout vraiment des gens dans la merde. De façon exponentielle.
Manu?
Oui, le lieu de travail est essentiel. Donc là, ils sont dispersés. C'est plus compliqué d'organiser des gens qui sont un petit peu partout, quoi. Ça, c'est évident. La force de travail, le regroupement des ouvriers, c'est essentiel pour la lutte et pour se défendre.
Comment ça se passe ici en Lozère au niveau des conditions de travail? J'ai l'impression qu'on est quand même un peu privilégié.
Non.
Ou alors finalement c'est comme partout et c'est la merde.
Non, alors c'est ce que voudraient nous faire croire certains patrons et élus locaux. Moi je pense que la Lozère, même si elle est un peu atypique de par sa démographie, elle n'est pas en dehors du monde, et finalement elle subit les mêmes décisions qui sont prises en haut lieu. Enfin, je dirais que le tableau il est quand même pas très reluisant, hein. On connaît l'importance du secteur de la santé et du médico-social dans le département, alors que ce soit l'hôpital public sur les différents bassins de vie, Langogne, Florac, Saint-Chély, Marejol-Mande, mais aussi dans le médico-social avec les structures d'accueil pour handicapés. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, et Enfin, c'est qu'un exemple, mais le problème, c'est que ces métiers ont tellement peu été revalorisés que ça, ce n'est plus du tout attractif, quoi. Alors après, il y a ce secteur-là, mais que ce soit à l'éducation nationale, enfin Manu pourra un peu mieux en parler que moi, mais aux finances publiques, à la poste, dont sujet que je connais bien, là on touche le fond, quoi. Voilà, et donc, c'est pas parce qu'on est un peu caché derrière nos montagnes que la ville est forcément plus belle ici, quoi.
Manu, t'as qui à ça?
Bah oui, enfin, il me semble que l'employeur numéro un en Lozère, c'est l'État. Hein, et du coup.
En tout cas, il y a un gros panneau sur l'autoroute qui est marqué premier investisseur de Lozère.
Ouais, et donc, comme la casse du service public est enclenchée depuis bien longtemps, les salaires des fonctionnaires ne suivant pas, ça fait effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie locale. Quand vous avez des gens qui ont un petit peu plus de pouvoir d'achat, au niveau des commerces, etc., tout va mieux, hein. C'est moi ça me paraît une évidence économique, c'est clair. Et puis après on a le problème de la géographie du département avec des déplacements quand même qui sont de plus en plus chers, ça peut-être à Paris ils le voient pas, hein, mais bon, ça c'est une réalité du terrain, hein.
C'est sûr qu'au niveau de la mobilité c'est quand même pas le paradis dans le coin, hein.
Non, et puis je pense que le coût de la vie il est quand même particulièrement élevé à travers les moyens de transport qu'il faut se payer, à travers l'accession à un logement, on n'est pas...
Et le chauffage, nous on a quand même des conditions météorologiques qui nous épargnent pas, hein. Donc que ça soit l'isolation des bâtiments ou bien même directement le chauffage en lui-même, quand on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir une isolation top géniale, ça impacte les budgets des foyers.
Ouais, puis heureusement, là, vous êtes plus obligé d'ouvrir la fenêtre 5 minutes par heure.
Non.
Comme c'était le cas l'année dernière et d'avant.
C'est pas grave, il y a des trous. Hein.
Pourquoi c'est compliqué, selon vous? On se dit, c'est pourtant le rêve, un SMIC à 1 500 € net, une retraite à 60 ans, 37 ans et demi de cotisation. Ça a l'air simple sur le papier. Pourquoi c'est si difficile pour eux d'accepter ce mode de vie? Qui a un mode de vie finalement assez simple.
Hein. Je vais reprendre les propos de la députée suppléante de Attal. Hein. Ce sont des choix, simplement. C'est des choix politiques. C'est-à-dire que on préfère penser et continuer à penser que y a une classe privilégiée qu'il faut surtout pas toucher. Parce qu'ils font soi-disant marcher le monde, et puis après, en bas, on est là pour ramasser les miettes. Bah, en fait, c'est tout le contraire. C'est les gens qui font tourner le monde, et c'est en haut qui récoltent le fruit de notre labeur. C'est simplement ça. Et donc, ceux qui sont au pouvoir, ils défendent la classe possédante, dont la richesse est le fruit de nous, du petit peuple.
C'est ça, et tant que cette classe-là considérera que les salariés sont des coûts, alors que c'est eux qui créent vraiment les richesses, on en sera là. Et puis je pense qu'il est utile, il serait utile aux salariés qu'il y ait une prise de conscience de classe, parce qu'en face, ils l'ont et ils se serrent plus les coudes que ce que font les salariés entre eux. Donc notre boulot de syndicaliste, il consiste en premier lieu à unir les travailleurs de tous les pays.
Le travail, ça a une valeur, pas un coût.
Comment ça va se passer pour vous concrètement votre journée de mardi?
Comment ça va se passer? Ça va se passer, j'espère, aussi bien que le 19. Donc le rendez-vous est sur le même lieu et à la même heure, c'est-à-dire à 10h30 place du Forail à Mende. Et j'espère qu'on sera aussi nombreuses et nombreux demain dans les rues. On s'attendait pas forcément à ça le 19, et on espère que demain on aura aussi une belle surprise.
Alors ici en Lozère, au niveau des manifs, il n'y a jamais eu de problème avec les flics, hein. Est-ce que ce qui s'est passé les années précédentes avec quelques violences, vous pensez que ça a pu rebuter du monde à manifester?
À Paris, c'est certain, hein. C'est assez évident. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens, des copains de Paris qui m'ont dit « Moi, j'ai peur maintenant. » Après, la bonne nouvelle, c'est que le préfet allemand, il a dégagé. bon, après, c'est pas garanti 100% avec des fleurs, mais c'est déjà un petit peu mieux. L'avantage ici, c'est que tout le monde se connaît, et même avec les gardiens de la paix. On a quand même la police dans ce rôle, elle a des attributions justement de pour maintenir l'ordre bourgeois, parce qu'elle est aux mains d'un État qui défend cet ordre-là. Mais c'est à nous aussi de convaincre nos camarades gardiens de la paix de réfléchir et de déborder un petit peu, peut-être de voir ce qu'ils peuvent faire, eux, de leur côté.
La sémantique entre gardiens de la paix et forces de l'ordre, ça dépend pour Darmanin ou pour nous.
Non, mais gardien de la paix, c'est le nom officiel de beaucoup d'agents de la police nationale. Hein. Mmh. Et donc, il faudrait s'en souvenir plutôt que d'axer les actes sur la répression uniquement, quoi. Voilà, je pense qu'ils ont autre chose à faire pour le maintien de l'ordre, en tout cas. Enfin bon, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est un peu compliqué. Hein. Mais même les policiers, par rapport à cette réforme des retraites, ils sont aussi directement impactés. Et bon, même s'ils n'ont pas le droit de grève, ils ne sont pas du tout contents de la situation.
Mardi, c'est à partir de 10h30 que ça se passe, place du Forail à Mende. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à toi.
De l'Union syndicale CGT, merci beaucoup, Manu.
À 9h30, il y a une AG aussi.
Et l'AG à 9h30 pour Sud Éducation.
Donc pour tout le monde, mais justement, pour essayer de construire le mouvement, vous pouvez venir un petit peu plus tôt, prendre le café et discuter, parce que c'est comme ça que ça bougera, ça fera avancer le chemin public.
Le cliché des merguez à midi ?
Ouais.
Allez. Ah oui, pensez bien à vous habiller, parce que vendredi, il faisait très très froid, Guillaume, il était au chaud avec le ministre, mais dehors il faisait hyper froid, ouais. il a eu la chance, mais ouais. C'était super super froid.
Ah, moi,
je suis resté 2 heures dehors quand même.
Ouais.
Un peu déçu aussi que je n'ai pas participé au repas républicain qui était...
Non, ils ne nous ont même pas gardé de dessert d'ailleurs.
Ouais. Allez, mobilisez-vous à partir de 10h30 ce mardi. Dans un instant, on écoute un petit reportage de Jacob sur les écrans. Tiens, il est allé à la rencontre des Floracois et des Floracoises. On écoute d'abord Isia, le morceau s'appelle La Vague.
Il est tôt. Tu t'éloignes si loin de la plage, la terre soudain comme un mirage. Oh. L'écho transperce la chair de tes flancs, tu disparais dans les courants. We'll be right back.
parti. Bonjour, je suis à Florac et je veux faire un petit micro-totoir sur les écrans. Alors bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est être un geek ?
Un geek, oui, je crois, ouais.
Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît ?
C'est quelqu'un qui est accroché à son ordinateur et qui n'est pas forcément informaticien. Ça peut être un joueur invétéré.
Ah, c'est grave,
inconnu. Inconnu, bon.
Alors, un geek, bah, c'est une personne qui passe la moitié de sa vie, voire les 9 dixièmes de sa vie plutôt, devant l'ordi. Non, c'est une personne qui est addict à l'ordinateur et qui passe trop de temps. Peut-être aussi c'est une façon de se plonger dans son propre monde. Voilà, peut-être que les geeks, ils ont besoin d'une bulle aussi, de sécurité, et se plongent peut-être devant... Alors moi je parle des écrans, mais parce que j'ai cette image-là du geek devant les écrans, mais peut-être le geek c'est pas forcément que ça. Ça peut être quelqu'un qui est fan de BD, ça peut être quelqu'un qui est fan... Mais en tout cas j'assimile ça à la culture liée quand même à la culture contemporaine et liée quand même un peu à Internet, à l'informatique.
C'est quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo.
D'accord.
Vous êtes un geek ?
Ah, du tout.
Vous n'utilisez pas Internet ?
Du tout. D'accord. Moi, je fais marcher encore la poste.
Non.
Quelles sont vos activités sur les écrans ?
Un peu tout. Bon, je joue un peu à des jeux, mais je vais pas dire lesquels. Je fais pas mal de streaming.
D'accord.
Et puis je fais beaucoup de lecture aussi en me baladant. Voilà, en partant d'une page d'info ou d'un Wikipédia et après de lien en lien.
Je regarde un petit peu les informations à la télévision. À part ça, c'est tout.
D'accord. Et qu'est-ce que vous regardez à part les informations ? Rien du tout ?
Si, les documentaires. Je regarde des documentaires, les films sur la nature. Moi, je regarde pas beaucoup. Hein. Je regarde, je sais pas, une heure par jour, hein, une heure et demie par jour.
D'accord.
Et encore pas tous les jours.
Ouais, pas mal de temps sur Internet à regarder des films, faire des recherches. Quand même.
Si tu devais définir Internet, ce serait quoi ?
Ouh, Internet. Internet, c'est... Et ben c'est un outil Internet, c'est un outil de communication qui vient à la suite de l'écriture. Voilà, on a eu Gutenberg et après Gutenberg on a Internet. C'est la troisième révolution de la communication et c'est un formidable outil mais qui peut être très dangereux et dont il faut se servir avec parcimonie.
Putain, c'est une putain de question ça. Internet, c'est un moyen. Un moyen de communication, de partage, de se retrouver, mais pour moi c'est juste un moyen. Voilà.
C'est la fin du monde, Armageddon.
Internet c'est une merveilleuse technique, c'est un moyen de communication formidable, mais que je trouve tellement dévié, dévoyé, trop utilisé et puis un peu inhumain.
Et toi, sans être un geek, tu passes du temps sur les écrans ?
Moi, j'ai un travail déjà qui me nécessite un temps de devant les écrans. Et puis, bah oui, comme tout le monde, je suis quand même un petit peu aussi addict. Je suis un peu geek aussi quand même, je l'avoue. Je passe quand même beaucoup de temps devant les écrans, ouais, c'est vrai.
Merci beaucoup, Florac. Je vous remercie pour cette interview micro-trottoir. À la prochaine.
Voilà pour ce micro-trottoir, le premier fait par Jacob. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve mercredi avec le festival Contes et Rencontres et sans doute le reportage sur le week-end qui vient de se terminer. Floracopoli, la première, c'était une super première, vraiment. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Carmen Maria Veiga, la menteuse. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À mercredi, ciao.
Je mens passionnément à mes amis, à mes parents, aux marchands, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs, là, pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux. à mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi t'as du talent hein. À moi, à vous. Merci. Bah moi je m'en fiche, et plus quand je me suis dit vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand, et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah il s'en remet travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois je voudrais fuir, partir de là, être sale sur une île. Bah moi je m'en mets pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi je m'en, même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile. Ah, je vais pas y aller là-bas, ça fait non. Laissez-moi tranquille, me touchez pas. Ce monde m'en fait pas souffrir. Ah bah moi je m'en plus depuis ce matin, depuis que j'ai fait du chemin. Je me suis dit que c'était vraiment nul, et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma